Voice of Indonesia.
Tous les auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? J'ai le plaisir de vous rencontrer encore avec moi, Tiwi, qui va vous accompagner pour les 60 prochaines minutes. Certaines émissions que je vais vous présenter sur votre salle d'écoute sont le journal, les infos de l'Indonésie et des autres informations, ainsi que des chansons pop indonésiennes. Bon, chers auditeurs, on commence avec le journal. Restez avec nous à Voice of Indonesia pour tout le monde à l'onde courte de 3,3 de 5 kHz et à notre site de www.voynews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, voici le journal d'aujourd'hui. On commence par le titre. L'Indonésie s'est engagée à réduire ses émissions de carbone. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a organisé un atelier sur le ASFC lié à la mise en œuvre du protocole de Montréal. L'Indonésie regrette que Kim et Trump sont incapables de parvenir à un accord. Le vice-président Yusuf Kalla a dit que l'Indonésie a construit une mosquée à Marawi, aux Philippines. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques a dit que les pays producteurs de palmiers à huile envoient des missions à l'Union européenne. L'aéroport international de Yogyakarta sera inauguré en avril. Chers auditeurs, voici le journal complet. L'Indonésie dépend toujours de l'énergie fossile. Les combustibles fossiles comme gaz naturel et charbon de pétrole restent les sources d'énergie dominantes. Il a indiqué que l'économie indonésienne est toujours soutenue par la consommation de combustibles fossiles. Maxensius Trisambodo, chercheur du Centre de recherche économique, l'Institut indonésien des sciences, lors d'une discussion sur le séminaire de l'énergie dans les bâtiments de l'IPI à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie s'est engagée à réduire ses émissions de carbone de 29% avec ses propres efforts et de 41% en établissant la coopération internationale en 2030. L'approvisionnement en charbon en 2025 est d'au moins 30%, puis il sera réduit en 2050. Ainsi, l'Indonésie, avec sa volonté politique, veut réellement réduire le charbon. L'Indonésie s'est engagée à réduire ses émissions de 29 et 41%. Maxensius Trisambodo a expliqué que les secteurs de l'électricité et des transports seront les secteurs principaux pour réduire les émissions de carbone. Cependant, il a déclaré que la transition vers un développement à faible émission n'était pas facile. Maxensius a déclaré que cela devenait un défi à relever pour permettre à l'Indonésie d'accroître considérablement le rôle de l'énergie propre sans augmenter les coûts de l'énergie. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a organisé un atelier sur les hydrofluorocarbures ou les HFC jeudi à Jakarta, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal. Le protocole de Montréal est l'un des accords internationaux dans le domaine de l'environnement qui vise à protéger la couche d'ozone. L'Indonésie a ratifié le protocole de Montréal depuis 1992. Cette activité a pour but de socialiser aux entreprises qui utilisent les hydrochlorofluorocarbones en HCFC dans les réfrigérateurs tels que les climatiseurs, les réfrigérateurs et autres réfrigérateurs afin de les convertir en hydrofluorocarbures étant plus respectueux de l'ozone. Selon le directeur général du contrôle du changement climatique, M. Ruanda Agung Sugardiman, l'Indonésie a encore 3 ans pour inventorier ses besoins afin que nous puissions effectuer des simulations et des modélisations. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a ouvert un atelier sur les activités habilitantes axées sur les HFC, essentiellement sur la façon dont nous préparant à ratifier le protocole de Montréal, mieux connu sous le nom d'amendement de Kigali. Parce qu'il a été changé plusieurs fois, parce qu'il y a de nouveaux éléments qui seront réduits à partir de ce matériau appauvrissant la couche d'ozone. Il reste donc 3 ans avant 2023. Nous faisons l'inventaire de nos besoins en 2020, 2021, 2023, afin de pouvoir effectuer des simulations. Selon Rwanda, le succès du protocole de Montréal dans la réduction de la consommation de substances appauvrissantes, la couche d'ozone, ou abrégée en SAO, a été atteint très significatif. L'Indonésie contribue également à la réduction de la consommation de matériaux destructeurs de l'ozone, notamment le type de hydrochlorofluorocarbone, ou abrégé en HCFC, de 2013 à 2018, qui a atteint 124,36 tonnes de substances appauvrissant la couche d'ozone, ou abrégé en ODP. Cette réalisation est due à la conversion de substances appauvrissant la couche d'ozone de type hydrochlorofluorocarbone avec des matériaux alternatifs plus respectueux de l'ozone et aussi respectueux du changement climatique, connus sous le nom de brocoli ou exempts de brome, de chlore et proclimat. Le gouvernement indonésien s'est félicité de la deuxième réunion du président américain Donald Trump avec le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, à Hanoï, au Vietnam. Mais l'Indonésie regrette que la réunion n'aboutisse pas à un accord. Elle espère que les États-Unis et la Corée du Nord seront toujours disposés à négocier à l'avenir. Les deux dirigeants devraient rester engagés à obtenir un accord pour parvenir à la paix dans la péninsule coréenne, exempte d'armée nucléaire. La vice-présidente indonésienne, Yusuf Kalla, a déclaré que le gouvernement indonésien reconstruirait la mosquée aux Philippines, détruite par la crise de Marawi. Le président Joko Widodo a convenu d'aider à reconstruire la mosquée détruite par la guerre à Marawi. C'est ce qu'a déclaré par Yusuf Kalla lors de la clôture de la Conférence nationale des Oulémas et de la Grande Conférence des Nahdlatul Ulema au pensionnat islamique Miftahul Huda d'Al-Azhar Chitankolo, Banjar Patroman, Jaffa de l'Ouest, vendredi. Il a déclaré que les islamiques ou les conflits religieux dans des pays de la région étaient généralement causés par l'existence de l'injustice envers ce groupe communautaire. Yusuf Kalla a confirmé que les efforts du gouvernement indonésien étaient une forme de préoccupation de l'Indonésie en tant que pays à majorité musulmane qui souhaite aider les conflits religieux dans les pays de l'ASEAN. L'Indonésie joue un rôle important dans la réalisation de la paix dans le pays de la région de l'ASEAN qui sont en conflit, tels que le sud de Thaïlande, le Myanmar et aussi les Philippines. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Darmin Nasution, a déclaré que le Conseil des pays producteurs de palmiers à huile, l'Inde et l'Indonésie, enverraient une mission conjointe en Europe pour répondre aux mesures discriminatoires prises par l'Union européenne en matière d'huile de palme. C'était le contenu d'un communiqué de presse commun prononcé lors de la 6e réunion ministérielle du Conseil des pays producteurs de palmiers à huile, abrégé en CPOPC, lu jeudi par le ministre indonésien de la Coordination des Affaires économiques, Darmin Nasution, à Jakarta. Selon lui, les ministres des pays de CPOPC ont réagi conjointement aux mesures discriminatoires qui existent du projet de règlement de la Commission européenne sur les énergies renouvelables. Les ministres considèrent le projet de règlement comme un compromis politique au sein de l'Union européenne visant à isoler et à exclure l'huile de palme du secteur des biocarburants de l'Union européenne qui bénéficie aux autres huiles végétales, y compris les graines de colza produites par l'Union européenne. PT Angkasa Pura Ang a déclaré que le nouvel aéroport international de Yogyakarta à Kulon Progo, la région spéciale de Yogyakarta, sera inauguré en avril de cette année. Le commissaire de PT Angkasa Pura Ang, Ali Mohtar Ngabalin, à Jakarta jeudi, espère que le nouvel aéroport deviendra une passerelle pour Jaffa et pour le tourisme. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Darmin Nasution, a déclaré que le nouvel aéroport international de Yogyakarta avait un grand impact. Darmin a expliqué que l'existence de cet aéroport international pourrait augmenter le nombre de visites touristiques dans la région de Yogyakarta ainsi que les activités économiques dans la région de Kulon Progo et ses environs. Bon, chers auditeurs, c'est tout le journal.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Jakarta. Le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, a lancé mercredi dernier trois produits innovants dans le secteur de la santé, e-Jiwa, DBD Klim et Jaktrek. Anies a déclaré que l'utilisation des technologies de l'information est une forme de développement du secteur de la santé du gouvernement de la province Jakarta au service de la communauté, grâce à la coopération avec le gouvernement central, le secteur privé et les institutions internationales. e-Jiwa est une application basée sur Android permettant la détection précoce des problèmes mentaux d'une personne au cours de 29 courtes questions sur les troubles du ressenti, les drogues, les symptômes psychotiques et le trouble de stress post-traumatique. DBD Klim est un programme d'alerte précoce contre la dengue basé sur le climat. Cette innovation est un système d'application d'information en ligne basé sur le web dbd.bmkg.go.id qui permet d'indiquer les prédictions de la dengue dans chaque ville de Jakarta avec le pour des pluies et l'humidité de l'air comme principal prédicteur. Jaktrek est l'abréviation de Jakarta, l'AMI, la réservation, la prise de médicaments, le contrôle des risques et des performances. Cette innovation est un système d'application d'information en ligne basé sur le web Jak. .trek.id qui est intégré dans la mise en œuvre des données de suivi, des rapports, des progrès et des réalisations des programmes de prévention du VIH/SIDA à Jakarta. Ensuite, l'info de Madiun, Javaès. Des Chinois à la ville Madiun, Javaès, nettoient toutes les statues de dieux et de déesses au lieu du culte Tridharma Hui Ying Kyong ou du temple Madiun afin d'accueillir le nouvel an chinois le 5 février 2019. Liana Wati, la relation publique du lieu de culte Tridharma Hui Ying Kyong, Langdi à Madiun a déclaré que le nettoyage des statues de dieux et de déesses était effectué avec de l'eau parfumé et 5 fleurs comme le jasmin, l'ilan de rose et l'huile de bois de santal. Lors des activités de nettoyage, les citoyens chinois travaillent généralement ensemble pour nettoyer et baigner plus de 100 statues des dieux et des déesses. On estime qu'il y aura des milliers de Chinois célébrant le nouvel an chinois au temple Madiun. Parce que lorsque la célébration du nouvel an chinois, il y a aussi une tradition de se réunir avec la famille. Le dernier, l'info de Mataram, Nusa Tenggara West. Le chef de l'Agence nationale pour la gestion des catastrophes, le lieutenant général Doni Monardo, a dirigé mercredi une cérémonie de libération de 2289 facilitateurs intégrés qui contribueront à accélérer la réhabilitation et la reconstruction des maisons endommagées par le séisme à Nusa Tenggara Ouest. Après la cérémonie, Donny a dit « Les facilitateurs comprenaient des membres de l'armée nationale d'Indonésie, de la police d'Indonésie, des responsables ministériels et la société civile. » Donny a déclaré que la communauté avait jusqu'à présent encore ressenti l'impact du tremblement de terre qui avait touché certaines parties de la Nusa Tenggara Ouest de juillet à août 2018. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 2 février. Le 2 février 1943, les troupes de la 6e armée de terre allemande se rendent à Stalingrad, l'Union soviétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a envahi une grande partie de l'Europe en utilisant une nouvelle tactique appelée « guerre éclair ». La deuxième attaque sur l'Allemagne en 1942 amena des soldats allemands sur les rives de la Volga et de la ville Stalingrad. À la mi-novembre 1942, l'armée soviétique lance une contre-attaque contre les forces allemandes. Après des mois de combats acharnés et de lourdes pertes, les forces allemandes se rendent. Les forces soviétiques ont forcé les Allemands à se retirer sur les rives du Dnieper. Le 2 février 1950, l'Université d'Indonésie a officiellement commencé ses activités. L'université, fondée par le gouvernement civil des Indes orientales néerlandaises, a été créée à Jakarta le 21 juin 1946 sous le nom de Nut Universiteit ou Université temporaire. Le 21 mars 1947, ce nom a été changé pour l'Université van Indonesia. Le 2 février 1950 a été célébré comme le jour de la naissance de l'Université van Indonesia. Cinq ans plus tard, la loi numéro 10 concernant la conversion du mot université a été approuvée et depuis lors, le nom Université Indonesia a été officiellement changé pour devenir l'Université d'Indonésie. Le 2 février, la Journée mondiale des zones humides. La Journée mondiale des zones humides est célébrée chaque 2 février. Le premier avertissement a eu lieu en 1997. La Journée mondiale des zones humides est l'une des célébrations de la Journée de l'environnement pour faire campagne pour la protection des zones humides. Encourager les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les organisations de protection de la nature et d'autres organisations, ainsi que les communautés, à prendre conscience du rôle important des zones humides, de leur conservation et de l'utilisation durable des zones humides. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'onde courte de 3,3-5 kHz ou à www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et un petit titre. L'Indonésie et l'Italie coopère dans le développement de carburants verts. Pertamina Persero Société Anonyme et Eni, une société italienne de pétrole et de gaz, ont conclu un accord visant à développer une raffinerie capable de transformer l'huile de palme en essence ou en carburant écologique. L'accord a été signé par Budi Santoso Sharif, directeur de traitement de Pertamina, et Giuseppe Ricci, le directeur du raffinage et du marketing chez Zeni, à Rome, en Italie, le mercredi 30 janvier. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Ignatius Jonan, et le directeur de Pertamina, Nike Widiawati, étaient également présents à l'événement. Budi Sharif a déclaré que l'accord de Rome faisait suite au mémorandum d'accord signé en septembre 2018 et à la signature d'un nouvel accord en décembre 2018. Selon Budi Sharif, l'accord était une étape importante pour le développement de l'énergie future indonésienne qui permettrait de réduire l'utilisation de l'énergie fossile. Budi Sharif a ajouté que la coopération visant à maximiser le potentiel des ressources naturelles renouvelables dans le pays était également liée aux efforts de Pertamina visant à réduire les importations de pétrole brut pour l'indépendance énergétique nationale. L'Indonésie dispose de sources d'énergie verte, l'huile de palme abondante qui constitue une ressource alternative pour le développement de l'énergie verte. L'Indonésie est le plus grand producteur d'huile de palme au monde. Jusqu'à présent, le mazout indonésien, soit BBM, a été divisé en deux, à savoir l'essence et le diesel. L'essence comprend Premium, Pertalite, Pertamax et Aptur. Mais seul le carburant solaire ou diesel est mélangé avec du biodiesel B2O. En plus de développer des raffineries de pétrole pour pouvoir traiter l'huile de palme brute CPO, Eni passera également de CPO d'Indonésie à la transformation de ses raffineries en Italie pour produire l'huile végétale hydrotraitée HVO, pouvant être utilisée comme mélange solaire. En outre, un cadre pour la création de co-entreprises est nécessaire afin que Pertamina puisse poursuivre ses discussions sur le potentiel de développement de raffineries vertes pour produire du HVO en Indonésie. Pour concrétiser sa coopération avec Eni, Pertamina a mis en place un comité de pilotage chargé d'explorer des opportunités commerciales communes et de discuter des clauses convenues qui constitueront une référence dans la construction de projets de raffinerie réalisables et respectueux de l'environnement. Pertamina et Eni s'engagent à réaliser la construction d'une raffinerie verte avec trois options. Premièrement, la conversion d'une partie des actifs de la raffinerie de Dumai d'être une plante verte. Deuxièmement, travailler à la construction d'une nouvelle raffinerie respectueuse de l'environnement située dans la région de la raffinerie de Dumai. Troisièmement, la construction d'une nouvelle raffinerie respectueuse de l'environnement à la raffinerie de Plaju. Jérémy, c'était mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Ensuite, nous allons présenter la rubrique du magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale des Indonésiens.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, je vous invite à passer des vacances en province Bangka Belitung pour visiter la plage Tikus Emas. Bangka est l'une des plus grandes îles de la province des îles Bangka Belitung. Sa capitale est Pangkal Pinang. L'île de Bangka est connue depuis longtemps comme la ville Timah ou la ville de l'étang. Et cette île offre également de nombreuses attractions magnifiques, notamment des objets de tourisme marin, entre autres la plage de Souris d'Or ou en indonésien la plage de Tikus Emas. Elle est située dans le district de Parit Pandang, la ville Sungai Liat, dans la région Bangka. La plage de Souris d'Or ou la plage Tikus Emas est située à l'est de la ville de Sungai Liat, capitale de la région Bangka. Vous pouvez le prendre en environ 15 minutes du centre-ville et environ 1 heure si vous venez de la ville Pangkal Pinang, située à une distance de 36,1 km. Cette plage porte le nom de Souris. Selon l'histoire de la population locale, elle était autrefois une zone habitée par des souris. Même si on voit de la colline, la forme de la plage ressemble à une souris. Entrez dans la plage Tikus Emas. Vous devrez payer des frais de stationnement d'un montant de 5000 rupiah pour les voitures et 2000 rupiah pour les motos. Cet objet de tourisme marin offre une vue sur la côte incroyable avec le sable blanc, les eaux de mer calmes et sapins sur la plage. Vous pouvez jouer à l'eau ou nager et pêcher. Il y a aussi des mini-jeux hors route pour les tout-petits. En outre, il y a des jeux de train, des bancs de ballon et de l'équitation. Vous pouvez également essayer le sport nautique. Avec des frais de 200 000 rupiahs, vous pouvez louer un jet ski pendant 15 minutes. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous êtes toujours avec nous à 3325 kHz et à www.voinews.id. Chers auditeurs, la rubrique suivante que nous allons donner s'intitule « L'Indonésie en couleur » sur des événements intéressants en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur en formant sur une statue de lion jumeau de 8 mètres de haut qui anime le nouvel an chinois à Singkawang. Les célébrations du nouvel an chinois et du Chap Gomeh à Singkawang sont pleines d'enthousiasme et de surprise. Avec la majorité des personnes d'origine chinoise, il n'est pas étonnant que cette ville ait été surnommée la ville aux mille temples ou Hong Kong d'Indonésie. Outre le fait que la culture et les traditions chinoises sont encore très chargées, Singkawang prépare le nouvel an chinois et Chap Gomeh comme attraction touristique depuis 2009. Le président du comité du Nouvel An chinois et du comité Chap Gomeh de Singkawang, Chai Leonardi, a dit « La célébration chinoise cette année a quelque chose de spécial. » Surtout, cette année, il y avait une réplique d'une paire de lions extraordinaires d'une hauteur de 8,8 mètres. C'est un record de Muri. C'est l'une des icônes de Chap Gomeh de la ville Singkawang. Les célébrations du Nouvel An chinois et du Chap Gomeh à Singkawang durent 2 semaines. Cette commémoration a eu lieu à partir du 3 février. Comme les années précédentes, divers spectacles culturels indonésiens tels que la danse et la musique sont devenus des friandises. Ainsi, depuis 2 semaines, nous organisons une série d'événements pour les gens. Tout le monde peut voir, peut regarder. Nous proposons des danses de la communauté, des studios de danse de tous les groupes ethniques dans le pays. Tout le monde peut le voir au stade Kridasana, suivi du centre des événements le 17 février. L'année précédente, il y avait un défilé de lanternes, des festivals du Nouvel An chinois et Chap Gomeh. Le 19 février, à 7h du matin jusqu'à la fin, il y a un festival de défilé de statues. La statue de Lion Jumeau, haute de 8,8 mètres, a été construite dans le but de devenir un symbole d'espoir pour une meilleure année. Cette statue est faite par les enfants handicapés. La signification d'une paire de lions est de protéger la ville Singkawang des esprits maléfiques en donnant des bénédictions, en assurant la sécurité de Kalimantan Ouest, de la ville Singkawang et de l'Indonésie. C'est le point. Encore une chose unique, ce lion d'or de haut de 8,8 mètres a été travaillé par des amis locaux. Ils sont donc les fils de cette région qui travaillent. Ce travail a été effectué il y a 4 mois. Maintenant, nous avons déménagé ce jour au stade. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmaraku, ini asmaramu, tumbuh makin sempurna.
Is like a miracle, and it is more than just a physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. A passionate as always, you the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you till the world is falling apart.
Continuons notre programme avec les informations musicales. Et pour ce soir, nous vous présentons la chanson Keroncong.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, je vais vous présenter des informations ainsi que la chanson de Keroncong intitulée Panorama Indonesia. Cette chanson raconte de la beauté naturelle de l'Indonésie, hautes montagnes, vallées, gorges et forêts verdoyantes. Le vaste océan crée un sentiment de paix. Et voilà la beauté de l'Indonésie qui invite à l'admiration. La chanson intitulée Panorama Indonesia a été chantée par Sri Widadi. En plus de chanter des chansons de Keroncong, elle a également chanté des chansons pop. En 1970, son nom a été juxtaposé à des chanteurs tels que Toto Salmon, Dedi Damhudi et Ida Rashid. Bon, chers auditeurs, Voici la chanson dont le titre est Panorama Indonesia par Sri Widadi. Bonne écoute!
Of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'est tout l'émission quotidienne en français pour ce soir. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir!